Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Je m'appelle François Doyon-Larochelle et je suis gestionnaire de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 12, dans l'actualité, ça brasse dans le marché obligataire. Ensuite, une mise à jour à propos de la fiscalité de vos placements, partie 1. Comme troisième point, le mauvais conseil du jour, acheter des actions à haut dividende. Et finalement, nous répondons à la question d'un auditeur qui se demande s'il devrait investir dans les FNB de Bitcoin. Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous faire un petit rappel que vous pouvez retrouver sur le site internet sujetcapital.com l'ensemble de nos épisodes ainsi que nos statistiques de marché mensuels et nos portefeuilles modèles. Sur ce, bonne écoute! Bon, je vous présente comme à l'habitude mes bien chers confrères James Parkin. James, le gestionnaire de portefeuille avec PWL Capital. Salut James.
Bonjour François.
Et Raymond Cazero. Raymond, c'est notre directeur de la recherche. Salut Raymond.
Salut François.
Bon, ben c'est parti. Dans l'actualité, Raymond, je pense qu'il y a pas mal d'actions dans le marché obligataire. Peux-tu nous parler de ça?
Oui, avec plaisir. Je veux préciser tout de suite en partant que mon commentaire en général concerne principalement les obligations canadiennes, mais la plupart des points que je vais relever s'appliquent également au marché des obligations américaines. Donc, gros changement dans les taux sur les obligations. Je vous donne quelques points de référence. Donc, en juillet 2020, les taux des 10 ans au Canada ont atteint un plancher de 45 points de base, donc 0,45%. Au 31 décembre 2020, on avait augmenté passablement. On était passé à 70 points de base, 0,7%. Dans le langage commun. Et à présent, tenez-vous bien, juste en l'espace de moins de 3 mois, en 2 mois et demi à peu près, on est rendu à 1,5%. Donc, toute une hausse. La hausse des taux, ça entraîne évidemment une baisse des valeurs des obligations. Juste pour l'illustrer, je vous donne deux FNB d'obligations importants. Le XBB, qui est le iShares qui calque l'indice universel des obligations, a un rendement depuis le début de l'année 2021 de moins 4,9%. Et le XSB, qui lui calque l'indice court terme, a un rendement depuis le début de l'année de moins 0,7%. Donc, les taux montent, les prix baissent.
Raymond, un peu plus d'explications pour la différence entre le XBB puis le XSB, s'il vous plaît. Est-ce que c'est la durée? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que la différence?
Oui, exactement. Entre Donc, les deux comprennent l'ensemble des secteurs obligataires, les obligations de gouvernement, les obligations de corporatives. Toutefois, le XBB comprend le marché au complet, donc essentiellement toutes les obligations ayant des échéances se situant entre 1 et 30 ans, et même dans certains cas un petit peu davantage, mais c'est plutôt rare. Tandis que le XSB, lui, se limite à toutes les obligations gouvernementales et d'entreprise, mais dont les échéances se limitent à une fourchette de 1 à 5 ans.
Donc, la durée là, pour le XSB, là, à peu près 2,5 ans, puis ouais. Le XBB, un peu plus long, entre 7 puis 8, là, oui, 8 ans.
Oui, donc quand on regarde l'indice universel, une sensibilité au changement de taux d'intérêt qui est 3 à 4 fois supérieure à l'indice court terme, mais encore plus important dans les derniers développements des derniers mois, c'est que les taux long terme ont augmenté davantage que les taux court terme. Puis pour cette raison-là, qu'on voit une telle différence là, dans les rendements négatifs. Donc, l'indice court terme a perdu de l'argent, mais pas tellement, moins qu'un 1 % de perte, tandis que l'indice universel, lui, a perdu presque 5 %.
OK, merci.
Écoute, Raymond, c'est tout un revirement. Si on regarde le rendement 12 mois au 31 décembre de l'année qui vient de se terminer,
ouais.
C'est tout un revirement.
Oui, si on regarde depuis le début de l'année, ça a pratiquement doublé. Il faut dire qu'on partait d'une base qui était très basse. Hein, on s'approchait des taux à zéro. Puis si on regarde vis-à-vis l'été dernier, on a triplé là, par rapport au creux atteint l'été dernier. Donc, c'est un mouvement très, très soudain. Oui, tout à fait. Par contre, quand on regarde au niveau de ce que ça représente en termes de la courbe des taux d'intérêt, c'est pas anormal. La courbe est comme revenue à la normale, là. Donc, pour regarder la courbe, ce qu'on va regarder, on va regarder le différentiel entre les taux de 10 ans puis les taux des bons du Trésor à 3 mois. On sait que les taux des bons du Trésor sont pratiquement à zéro, là, 0,07%, aussi bien dire qu'ils sont à zéro. Donc, avec la hausse importante des taux obligataires, la courbe est revenue à 140 points de base à peu près. Puis ça ressemble beaucoup à la moyenne à long terme qui est de 120 points de base. Donc, d'avoir une différence quand même assez marquée entre les taux 10 ans puis les bons du Trésor 3 mois, c'est pas anormal, c'est juste normal. Ça, c'est la situation dans laquelle on se trouvait l'été dernier où ce que la courbe de taux d'intérêt était particulièrement plate. C'est cette situation-là qui était assez anormale.
Donc, Raymond, est-ce qu'avoir cette courbe normale, est-ce que ça nous aide un peu plus à prévoir la direction des taux d'intérêt?
Non, là, ça n'aurait pas plus. Surtout le court terme. Les marchés obligataires, c'est comme les marchés des devises, c'est comme les actions. C'est pas prévisible, selon moi.
Puis d'après toi, Raymond, qu'est-ce que ça signifie pour l'inflation future, là, cette hausse de taux d'intérêt?
Bien, ce qu'on a vu au printemps dernier, quand la crise de la COVID a éclaté en février-mars l'année dernière, en même temps que les actions s'effondraient, on a vu les taux des obligations qui s'effondraient, puis on a vu aussi les attentes d'inflation s'effondrer. Puis ça se cristallise quand je regarde mes projections pour l'inflation qu'on peut déduire là, des taux obligataires. Je ne donnerai pas un cours là-dessus, là, on en a parlé dans d'autres épisodes. Je vois un taux d'inflation projeté par les marchés obligataires à 1,3%. Ça, c'est extrêmement bas, ça devient même inquiétant. Donc, le fait qu'il y ait un redressement dans le marché obligataire, ça a aussi été accompagné d'un début d'élargissement dans l'inflation anticipée. Donc, c'est quand même bon signe parce que c'est évident quand on voit l'inflation projetée augmenter de façon... s'effondrer comme c'est arrivé le printemps dernier, c'est très inquiétant parce qu'on craint l'arrivée de la déflation, donc de la baisse des prix à la consommation. Donc, ce qu'on voit, c'est un retour à la normale à l'heure actuelle. Donc on voit le commentaire sur la courbe des rendements. La courbe des rendements s'est accentuée et revenue à la normale. Par contre, le point d'ancrage de la courbe des rendements, c'est les bons du Trésor et 3 mois. Et ça, c'est essentiellement la Banque du Canada qui contrôle ça. Puis ça, la banque a été claire, elle ne veut pas toucher à ça probablement pour plusieurs mois, sinon plusieurs années. Donc, il faut s'attendre à des taux court terme tout près du zéro pour l'avenir prévisible, là, pour un bon bout de temps. Ça, c'est la Banque du Canada qui contrôle ça, c'est pas les marchés. Par contre, la courbe pourrait fluctuer encore. On pourrait voir encore une accentuation de la courbe de rendement. Normalement, ça va pas bien, bien au-delà de 200 points de base, hormis des circonstances exceptionnelles. Donc, on pourrait peut-être imaginer, je ne fais pas une prévision, mais je peux juste dire que c'est une possibilité que les taux d'obligation augmentent encore modérément. Mais par contre, pour avoir un changement drastique, là, pour s'en aller à des taux d'obligation de 3-4%, il faudrait vraiment un changement beaucoup plus prononcé là, dans les fondamentaux de l'économie et dans la politique monétaire. Dernier point que je voulais apporter avant de conclure, les écarts de crédit, eux, sont pas vraiment revenus à la normale. On voit qu'au Canada, quand je regarde les écarts sur les obligations d'entreprise avec des cotes de crédit de A, donc des bonnes cotes de crédit, pas les meilleures, mais des bonnes cotes de crédit à 10 ans, l'écart de rendement est rendu à 88 points de base. C'est largement en deçà là, de la moyenne à long terme qui se situe aux alentours de 120 points de base sur le long terme. Puis c'est un record des 5 dernières années. Puis un peu la même chose, un autre indicateur que je suis dans le marché obligataire, c'est les écarts sur les obligations à rendement élevé, donc les obligations de compagnie à très haut risque aux États-Unis. L'écart est sur l'indice ICE Bank of America, est à 360 basis points en haut des Treasuries, ce qui n'est pas un record. Je te dirais que les bas historiques, c'est en bas de 300 basis points, mais c'est quand même très bas, là, 360 bips. Je te dirais que la moyenne à long terme, c'est au-delà de 500 points de base. Donc, ma conclusion, c'est que le marché, comme je l'ai fait part dans le dernier épisode, le marché est très, très réceptif à prendre des risques à l'heure actuelle. comme on voit avec les SPAC, comme on voit avec le Venture Cap, on voit des lancements de Bitcoin ETFs dont François, tu vas nous parler un petit peu plus loin. Donc, le marché est très réceptif à prendre des risques. Donc, attention à la gestion des risques. Là, je pense que c'est ce que le marché obligataire nous dit.
Puis, Raymond, j'ai remarqué que les treasuries aux États-Unis là, sont à 1,6% de rendement. Ça a surpassé le rendement dividende du S&P 500 qui est à 1,5. Est-ce que c'est un problème, ça?
Oui, puis on a vu des histoires un peu dans les journaux avec ça, mais pour moi, c'est juste du bruit. En fait, c'est un phénomène assez récent là, que le taux de dividende du S&P 500 passe en bas du taux des treasuries. Et maintenant qu'il a repassé en haut, là, on fait une histoire avec ça. Mais essentiellement, ça fait depuis 1950 là, que le taux du S&P 500 est en bas des treasuries. Donc, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Avant les années 50, oui, le taux de dividende était plus élevé que le taux sur les treasuries. Puis à l'époque, quand le taux du S&P 500 avait passé en bas des treasuries. Il y en a qui avaient fait une grosse histoire avec ça, que le marché allait crasher puis tout. Puis ça n'a pas empêché là, le marché haussier aux États-Unis de se poursuivre pendant plusieurs années. Donc, pour moi, c'est vraiment pas un indicateur pour m'inquiéter. Par contre, comme je mentionne, le marché des actions est très réceptif aux risques à l'heure actuelle. Souvent, Buffett disait when the market is greedy, je suis peureux quand le marché est greedy. Puis quand le marché est peureux, ben je suis greedy. Il a tendance à prendre l'inverse des marchés. Donc, il faut comprendre là, à l'heure actuelle d'être très, très conscient là, des risques dans le portefeuille puis de ne pas prendre plus de risques que ce qui est précisé dans votre politique de placement ou dans votre stratégie de placement. Juste pour conclure, je ne veux pas m'éterniser, mais le fait que le taux des obligations augmente, d'un point de vue d'investisseur à long terme, d'après moi, c'est plus un bien qu'un mal. À court terme, oui, ça fait baisser le prix des obligations, mais sur le long terme, ça a un impact important sur les rendements espérés des actifs. Donc, ça augmente les rendements espérés à long terme des actions et des obligations à tout le moins, puis des actions peut-être éventuellement. Donc, c'est probablement un positif là, pour les investisseurs à long terme d'avoir des rendements espérés plus élevés.
Excellent. Merci, Raymond. Donc, notre prochain sujet, il y a la saison d'impôt qui arrive à grands pas, puis on voulait vous faire une mise à jour à propos de la fiscalité de vos placements, partie 1, parce que la partie 2 viendra à notre prochain épisode. James, c'est à toi.
Oui, merci François. Écoute, c'est la période de l'année où on doit penser à préparer nos papiers qui vont servir à la préparation de nos déclarations d'impôts. Nos propos aujourd'hui vont être pour des résidents fiscaux canadiens. Pour ceux qui ne sont pas résidents fiscaux canadiens, ça ne s'appliquera pas. Nos auditeurs, on présume, ont des portefeuilles qui sont très bien diversifiés. Donc, ils ont des actions canadiennes, des actions internationales, des actions américaines, des obligations, possiblement des futurs revenus. Donc, ils vont avoir toutes sortes de feuillets qui vont être produits. Et là, la question qui se pose, c'est comment je m'y prends? Mais nous, ce qu'on recommande d'emblée, c'est d'avoir une espèce de liste de contrôle. En anglais, on dirait un checklist. Nous, PWL, on en produit un. On pourrait le rendre accessible à nos auditeurs. Les bureaux comptables, souvent, en ont. On pourrait aussi vous offrir des liens à ce genre de liste. Et c'est très utile. Pour ceux qui sont assez braves, qui ont des portefeuilles sophistiqués, qui ont beaucoup de classes d'actifs dans les comptes taxables, effectivement, ils vont acheter souvent un logiciel pour préparer leur déclaration eux-mêmes. Mais je dois dire que la plupart de nos clients, plus de 95% font appel à une firme spécialisée de spécialistes, de professionnels qui vont préparer les déclarations d'impôts parce que les cédules et annexes et les soldes reportés, la préparation de suivi technique de tout ça, c'est beaucoup trop lourd. Comme tu as bien dit, François, on va faire ça en deux parties parce qu'il y a beaucoup de matière à couvrir. Donc, on va commencer avec les revenus de placement excluant les gains à capital. Gains à capital, ça va être la partie 2. Fait qu'on va parler d'intérêts, dividendes, revenus étrangers, distribution de fonds mutuels, distribution de sociétés en commandite ou de partenariats. On va aussi parler des dépenses de placement. Puis ça, il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont souvent déductibles et il faut bien comprendre les règles. Fait que quand on parle d'intérêts, de dividendes, autres sources de revenus, comme citoyen canadien, résident, exemple, du Québec, l'Ontario, on doit avoir des comptes domestiques, c'est-à-dire avec des institutions financières canadiennes. On doit leur fournir notre numéro d'assurance sociale. Et ça, c'est parce que ça leur permet de produire, entre autres, les feuillets fiscaux. Donc, on les connaît tous. Faisons un petit bref résumé. T5, T5008, pour les résidents du Québec, on a l'obligation de produire une déclaration provinciale, donc il y a un feuillet équivalent, le RL3, le RL18, qui est le résumé du courtier, c'est-à-dire les résumés des transactions qui ont été faites dans le compte pendant l'année. Pour les revenus provenant des fonds communs de placement, des fiduciaires revenus et tout autre fiducie, c'est des T3 et des RL16 qui sont émis. Si on est chanceux, exemple, nous, dans les portefeuilles, on a beaucoup de positions avec les fonds Dimensional. Eux, ils vont émettre un feuillet pour tous les différents fonds qu'on détient. Donc, c'est pas mal plus pratique parce que ça sommarise les chiffres. Et donc, ça permet une simplicité accrue au niveau de la préparation des déclarations d'impôts. Ce qui est très important, c'est que les fiducies, les fonds mutuels, ils ont jusqu'à la fin mars pour produire leurs feuillets fiscaux. Tandis que les T5, eux, les RL3, ils ont jusqu'au 28 février. Fait que c'est une grosse différence. Que souvent, les gens reçoivent plein de feuillets et disent « Ah, regardons ça, j'ai tous mes papiers. » Mais non, il faut vraiment attendre la fin mars. Puis effectivement, s'ils ont jusqu'à la fin mars pour produire le feuillet, ça veut dire qu'on va les recevoir quelque part dans la première semaine ou les premiers jours du mois d'avril. Fait que, donc, ça, c'est un élément important à considérer. L'autre point, c'est dans les sociétés en commandite, ils vont émettre un T5013. Au Québec, c'est un RL15. Et là, encore une fois, il y a beaucoup de cases sur ce relevé-là. C'est très compliqué. Et c'est pas généralement à la portée de tout le monde de faire ça, personnellement, ces déclarations quand on a ce genre de feuillet. Ensuite de ça, on a les intérêts payés sur des placements qui peuvent être déductibles. Puis là, il faut faire attention parce que la notion de déductibilité des intérêts, il ne faut pas prendre pour acquis simplement parce qu'on a payé des intérêts que c'est déductible. Il faut effectivement prouver qu'on a emprunté pour investir. Fait que l'investisseur qui décide, moi, je vais emprunter sur ma marge de crédit hypothécaire, puis là, je vais aller faire des rénovations, mais là, tu sais, j'ai des placements, je ne les vendrai pas, mais gars, j'ai des revenus de placement, je vais déduire mes intérêts. Mais en fait, ça ne serait pas déductible parce que de faire des rénovations sur sa résidence personnelle, ce n'est pas une dépense qui générait un intérêt déductible. Donc, il faudrait vendre des placements, se servir du produit de vente pour faire ses rénovations. Puis dans un deuxième temps, on emprunterait pour investir. Puis il faudrait prouver que ce qu'on a tiré sur la marge a été effectivement déposé dans le compte de placement. Puis
il faut démontrer un lien direct. Hein?
Exact. C'est exactement ça, François. Fait que là, l'autre point, c'est que souvent, on a parlé dans le passé sur la stratégie du prêt conjoint dans la pandémie, le taux prescrit pour mettre ces stratégies-là de fractionnement de revenus avec les conjoints en place à 1%, c'est vraiment intéressant. Alors, mais il faut, comme on a dit, payer l'intérêt, c'est-à-dire que le conjoint qui emprunte doit payer au conjoint prêteur avant le 30 janvier, les 30 jours qui suivent l'année fiscale. Donc, pour ceux qui ont payé des intérêts à un conjoint en 2020, en janvier 2020, on prend la dépense, mais le conjoint qui a reçu les intérêts doit déclarer des revenus comme revenu d'intérêt. Fait que ça aussi, c'est des points importants. Donc, de garder tous ces relevés bancaires et toutes ces preuves, c'est très important dans le futur. Peut-être que ça fera l'objet d'un balado dans l'avenir, mais je crois que tous les clients devraient digitaliser dans des voûtes électroniques leurs papiers d'impôt simplement pour toujours y avoir accès au cas que le fisc aurait des questions. Ensuite de ça, il y a des frais de gestion de placement. Alors nous, PWL, comme conseiller qui charge des honoraires pour gérer les portefeuilles, on émet un feuillet canadien en dollars US pour les comptes US. On doit dire que les frais imputés aux comptes enregistrés, que ce soit le RIR, le FER, le régime d'épargne études et le CELI, ne sont pas déductibles. Dans le cas du RIR et du FER, c'est des dollars à impôt. Alors, c'est comme si c'était déductible. Pour le CELI, c'est un compte qui ne génère pas d'impôt. Donc, c'est normal, logique que le fisc ne permette pas une déduction pour les revenus de placement, pour des conseils en placement pour générer ces revenus-là. Et le régime d'épargne études, ce n'est pas déductible non plus. Même s'il n'y a pas de déduction quand on contribue, les revenus, les gains sont attribués à l'enfant plus tard lorsqu'il y aurait des retraits. Donc, on investisseur ne peut contourner cette règle en facturant des frais liés à un compte enregistré sur un compte non enregistré. C'est très important. Très occasionnellement, les clients qui ont des très gros portefeuilles vont demander aux firmes comptables de faire de la comptabilité pour ces placements-là, mais ces frais comptables-là peuvent être déductibles. Les frais pour produire sa déclaration d'impôt ne le sont pas en passant. Maintenant, c'est la cédule 4 sur la déclaration fédérale. Il y a l'équivalent au provincial. Le revenu de placement est donc déclaré. Alors, si vous utilisez un logiciel pour faire votre déclaration de revenus, enregistrez les informations de vos feuillets d'impôt dans la zone des feuillets d'impôt de la déclaration. Fait que chaque case a un numéro, c'est assez facile. Si, encore une fois, on aime ça, faire ça soi-même. Les montants sur votre feuillet d'impôt peuvent ne pas être en dollars canadiens. Puis c'est là où ça peut se compliquer. Parce qu'il faut toujours, sur la déclaration d'impôt, rapporter en dollars canadiens. Fait que là, c'est quel taux de change qu'il faut utiliser. Et donc, lorsque on ne sait pas, exemple, un fonds mutuel détient plusieurs compagnies qui payent des dividendes au courant de l'année, on a le droit d'utiliser un taux d'impôt moyen qui est fourni par la Banque du Canada.
Un taux d'impôt ou un taux de conversion?
Taux de change. Merci pour cette correction, François. Fait que lorsque vous enregistrez les montants de vos feuillets fiscaux à l'aide d'un logiciel d'impôt sur les revenus, toute retenue d'impôt ensuite de ça, il faut faire attention. Les revenus étrangers, on a des retenues d'impôt selon les conventions fiscales. Alors, prenons la plupart du temps, c'est des revenus de source américaine. La convention fiscale, c'est que tu as 15 % de retenue à la source. Donc, ici, on sait qu'un dividende de compagnie américaine est imposé comme un intérêt. Donc, tu n'as pas le taux réduit des dividendes canadiens. Le 15 %, donc, si on est au taux marginal le plus élevé à 53,31 %, on ajoute 15, on est rendu à 68,3 %. Imaginez, c'est pas mal d'impôts sur les revenus. Fait que c'est sûr qu'il y a un crédit, fait que c'est que l'impôt va être réduit d'autant sur la déclaration fédérale, mais il faut réclamer ce crédit-là, c'est très important. Donc, on va avoir dans le quatrième segment de ce balado, on va parler des dividendes puis les efficacités fiscales. Tantôt, quand j'ai parlé des feuillets, je n'ai pas souligné, évidemment, les dividendes canadiens de source canadienne. Le taux est plus bas. La logique, c'est que l'impôt corporatif, la compagnie fait des profits, paye son impôt corporatif et les dividendes sont payés à même les montants impôts. Et c'est pour ça qu'ils nous offrent le système où on a des crédits d'impôt sur les dividendes, qui fait qu'au net, l'impôt est sensiblement moins élevé que si c'est sur du revenu ordinaire ou du revenu d'intérêt, si on veut. Le crédit d'impôt, revenons sur le crédit d'impôt étranger, au fédéral, c'est le T2209. Il faut préparer l'annexe pour réclamer ça. Encore une fois, c'est très technique et on vous recommande de consulter le guide de l'ARC. Bon, encore une fois, pour ceux pour qui les déclarations sont préparées professionnellement, on n'a pas ce souci-là. Revenons sur la notion de convertir des montants étrangers en dollars canadiens. Comme je mentionnais, la Banque du Canada publie son taux de change pour ce qui est du dollar américain. Si on détient des unités du fonds mutuel qui nous verse toutes sortes de choses, on n'a pas le choix que d'utiliser le taux moyen pour l'année en cours. Si par contre on connaît la date et c'est un taux qui est plus que du paiement de dividendes, effectivement, on peut utiliser ce taux de change s'il nous est favorable. Fait que si un revenu ou une dépense que vous avez reçue ou payée a été converti en dollars canadiens dans le cadre de l'opération, alors le montant en dollars canadiens que vous avez réellement reçu ou payé, c'est ce montant-là qu'il faut déclarer sur, comme revenu ou, le cas échéant, la dépense de placement. Donc, c'est tout pour la section sur les revenus et les dépenses de placement. La semaine, c'est-à-dire dans le prochain balado, on verra les règles fiscales à considérer pour les ventes et transactions pour les gains et pertes en capital.
Excellent. Merci, James. Donc, je vais te laisser respirer un peu. Comme troisième point, c'est toujours à toi. On a le mauvais conseil du jour. Acheter des actions à haut dividende.
Ben écoutez, on a vu un article passer dans la section, le cahier des affaires du Globe and Mail. Et c'est un auteur qui est assez réputé, qui généralement écrit des très bonnes choses, Norman Rothery. Et dans son article, il a promu le thème d'investissement selon lequel les actions à haut rendement sont peut-être votre meilleur pari en ce moment en termes de placer votre argent. Fait que sa recommandation est que, regarde, ils n'ont pas augmenté comme le reste du marché, donc ces valeurs-là sont, ces placements-là sont une belle occasion d'investissement puisque le crash les a durement frappés, le crash du corona, et ces dividendes-là, donc les compagnies, c'est très juteux comme rendement. Et dans son article, il souligne toutes sortes de compagnies, BCE, les pipelines Pembina, Enbridge, TC Energy, évidemment les grandes banques, et ils ont des taux de rendement de supérieurs à 5 %. En fait, il a souligné une vingtaine de titres. La moyenne, c'est de 5,1 %. Il soulignait l'année dernière, dans la crise, il en achetait un qui avait un taux de rendement de 8 %. Maintenant, il est à 4,8. Donc, il a fait une plus-value depuis lors. Puis, il a fait entre-temps un bon rendement.
J'aimerais ça ajouter, James. Ça, c'est une stratégie de communication qu'on voit souvent. Là. Prendre un exemple particulier puis généraliser à partir de ça pour prouver notre point. Hein? Mais ça demeure un cas particulier. C'est important de noter ça.
On ne sait pas si c'est plus mardu que d'autres choses que dans cette valeur-là. Alors, en même temps, il y a un dividende élevé. Parce que souvent, les dividendes élevés, en anglais, le terme, c'est « yield trap ». C'est peut-être que la compagnie est sur le point de couper son dividende. Le prêt est tellement baissé que le taux est élevé. Donc, ça ne fut pas le cas pour lui. Il fait état qu'il étudie les bases de données de Ken French. Toi, Raymond, tu connais ça. C'est des outils de travail que tu utilises avec grande fréquence. Donc, c'est très respecté. Bien. Puis là, il fait état que, ben, basé là-dessus, que nous, pour l'investisseur à long terme, des actions à haut dividende, c'est très intéressant. Puis c'est un bon choix de placement. Donc, pourquoi pensons-nous que c'est un mauvais conseil? Premièrement, ça va complètement à l'encontre de la diversification. Puis tantôt, je vais donner trois exemples d'ETF qui sont investis dans les dividendes. Vous allez voir qu'il n'y a pas de diversification du tout, là. Et en fait, il y a des concentrations d'actifs. Point numéro deux, l'accent mis sur les dividendes évite de regarder le rendement total du placement qui comprend l'appréciation du capital et le dividende. Des rendements de dividendes élevés peuvent ne pas conduire à des rendements totaux élevés. Puis on n'a rien qu'à regarder les résultats de 2020. Troisièmement, les actions à haut rendement ne sont pas toujours moins volatiles. Méfiez-vous de l'imposition des dividendes des sociétés étrangères au même taux que les revenus d'intérêt. Encore une fois, c'était la surprise. Puis on pense dividendes, c'est imposé moins, mais ça s'applique seulement aux dividendes canadiennes. Warren Buffett, le grand sage de Omaha, que tout le monde croit est le plus grand investisseur de tous les temps, sa société Berkshire Hathaway ne paye pas de dividendes. C'est que si vous dites « Ah, moi, je veux juste des actions au rendement », on éviterait d'acheter Berkshire Hathaway. Des actions de croissance comme Shopify qui a généré le gros du rendement sur la bourse canadienne, si ce n'était pas de ça, le rendement aurait été presque nil et ne paye pas de dividendes. Apple, Microsoft versent des dividendes de 0,68 et 0,97% basé sur des cours récents. Fait que, encore une fois, on éviterait d'acheter des placements qui sont avérés extraordinaires dans les 10 dernières années si on avait ce filtre-là, simplement d'acheter des actions à haut dividende. Donc, très important au niveau d'optimisation fiscale, la création de revenus peut être une priorité pour certains investisseurs, mais la vente d'actions peut être un moyen plus efficace sur le plan fiscal à moyen et long terme de générer et des flux de trésorerie pour payer nos dépenses.
James, je t'arrête là. Juste expliquer, c'est que le gain en capital, l'imposition sur le gain en capital est moindre que les impôts sur les dividendes.
Tout à fait. Puis c'est la moitié, en fait, qu'un revenu d'intérêt ou un revenu d'impôt sur des dividendes étrangers. Fait que c'est beaucoup plus efficace. Puis on est beaucoup mieux diversifié avec ce genre de portefeuille-là. Donc, point final numéro 7, n'oubliez pas de rester concentré sur vos objectifs d'investissement à long terme plus large. Fait que le bruit du moment, oui, ça peut être une occasion d'acheter ces actions, puis peut-être dans la prochaine année, ils vont bien faire. Mais il faut revenir sur les thèmes importants de son plan, de ses objectifs à long terme. Fait que pour souligner des exemples, j'ai trois fonds transigeants en bourse. Donc, tous émis par iShares. J'ai pris eux parce que c'est des très bons produits pour ce genre de placement. XDV, iShares Canadian Select Dividend Index, 1,4 milliard d'actifs. Ce fonds-là a généré un rendement de moins 0,51 en 2020 et en dépit d'avoir des rendements élevés de dividendes. Fait que ce fonds-là, très concentré, les 10 plus grandes positions. Bien, tu as la Banque de commerce à 8,85. Donc, il y a 55% du fonds, c'est dans seulement 10 valeurs. Puis au total, il y en a 30. Fait que si on compare ça à l'indice du marché total, qui est le XIC, là, le Core S&P TSX Capped Composite, bien là, tu as 219 compagnies. C'est sûr que tu n'as pas le même taux de dividende, mais ce fonds-là, comme on a mentionné tantôt, il a fait 5,6%. Le gros du rendement venait de Shopify, mais tu n'as pas le niveau de concentration de titres que tu as comme dans le fonds transigeant bourse Select Dividend. Fait que là, si on regarde du côté des États-Unis, un fonds transigeant bourse XHU, iShares US High Dividend Equity Index. Donc, encore une fois, tu as presque 60% investi dans les top 10 placements dans le fonds. Encore une fois, un très fort niveau de concentration. 74 titres dans le portefeuille. Quand on regarde le Russell 3000, qui est un indice souvent utilisé pour l'ensemble du marché transigeable aux États-Unis, ben, tu as 3000 compagnies. Fait qu'encore une fois, c'est pas diversifié. En 2020, ce fonds a fait moins 8,93% quand le marché américain a fait plus 18%. Fait qu'on voit que ça a été très volatile dans l'autre sens.
Et fiscalement parlant, là, James, les dividendes là, de compagnies américaines là, dans ton portefeuille taxable, c'est pas très...
C'est au taux marginal. Il n'y a pas d'avantage fiscal.
53% pour les investisseurs à haut revenu.
Donc, revenons au principe de base, puis j'aimerais souligner un commentaire que j'ai partagé avec nos auditeurs lors du dernier balado, qui est une citation de John Bogle, fondateur de Vanguard. Il a dit en 2012, « L'investissement s'inscrit dans un continuum temporel. » Puis, ouais, c'est peut-être beau de dire « Je vais acheter des hauts dividendes maintenant parce que ça a mal fait, puis donc ça va reprendre la vigueur. » Mais qu'est-ce qu'on fait après? Fait que c'est vraiment, en tout cas...
James, c'est une mentalité de trader, ça, hein? Parce que tu es tout le temps comme une girouette, tu es tout le temps en train de courir après la soi-disant prochaine opportunité, mais à moins d'être clairvoyant, tu vas te planter quel pourcentage du temps, tu risques de te planter pas mal souvent.
C'est ça, puis la notion de Bogle, c'est que le continuum temporel, c'est par ça, il veut dire que avec l'investissement, il n'y a ni début ni fin. Fait que les marchés sont en mouvement et en constante évolution. Puis ça s'applique également aux actions à dividendes élevés.
Ouais.
Et je pourrais rajouter, on a dans notre premier sujet, là, les obligations. Les obligations à long terme au Canada ont très bien fait en 2020. Mais si on regarde depuis le début de l'année, ben, comparativement aux obligations à court terme, ils ont payé le prix. Là, en deux mois, ils ont perdu près de 5%. Raymond, tu as mentionné 4,9% versus le court terme, moins 0,7%.
Tout le gain, le surplus qu'ils ont fait par rapport aux obligations à long terme par rapport aux obligations court terme en 2020, il a été vaporisé en deux mois. Là. Fait que c'est sûr que c'est cette notion de continuum est très importante. Quand on regarde des rendements, c'est des points précis de début puis de fin. Puis c'était très arbitraire comme vue d'ensemble. Là.
Ouais. Mais se concentrer dans les actions à dividendes, c'est pas optimal. ni d'un point de vue diversification, gestion du risque, ni d'un point de vue de la fiscalité.
Excellent. Merci, messieurs. Donc, le prochain sujet, question d'un auditeur. Quelle est notre opinion sur les FNB, sur le Bitcoin? Bon, avant de répondre à la question, je voudrais dire que je comprends l'intérêt des gens pour les crypto-monnaies et surtout le Bitcoin, qui est le plus connu, on va se le dire. La performance du Bitcoin en 2020 était d'environ 300%, ce qui est pas mal. Mais mieux encore, là, si on regarde de son creux de mars 2020, de 4 000 $ à son sommet historique de plus de 58 000 $ atteint le 21 février 2021, donc il y a quelques semaines, sa performance a été d'un impressionnant 1350%. Wapalaï. Donc,
ce serait merveilleux si on pouvait acheter les rendements passés. Hein?
Oui, tout à fait. Je pourrais prendre ma retraite plus vite. En tout cas, je ne suis pas un expert en crypto-monnaie ou dans le Bitcoin, mais que nous soyons ou non, il est indéniable qu'il y a un engouement en ce moment pour le Bitcoin. Que ce soit Elon Musk de Tesla aux investisseurs individuels, il semble y avoir une très forte demande. La demande est si forte que le moment du lancement d'un FNB sur le Bitcoin ne peut pas vraiment être meilleur, là. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou non, mais le record atteint de 58 000 $ là, atteint le 21 février dernier pour le Bitcoin n'était que 3 jours après le lancement du premier FNB sur le Bitcoin au monde, ici au Canada, par Purpose Investment. Et 2 jours plus tard, il y a eu un deuxième FNB sur le Bitcoin également lancé ici au Canada par FNB Evolve. Donc, il est clair pour moi que ces FNB amélioreront considérablement l'accessibilité, la facilité de transiger le Bitcoin pour le grand public. Tout d'abord, ces FNB sont simples à négocier. Négocier à la bourse là, comme une action ou un autre FNB. Deuxièmement, vous n'avez pas besoin de portefeuille numérique, de clés ou de gérer la sécurité vous-même. Tout cela est fait au niveau du fournisseur du FNB qui détient des Bitcoins réels dans ce qu'on appelle en anglais « secure cold storage ». Enfin, contrairement au Bitcoin physique, vous pouvez également détenir ces FNB-là de Bitcoin dans vos portefeuilles enregistrés comme le REER ou votre CELI.
Incroyable.
Quand même, hein? Donc, maintenant, pour les détails de ces FNB-là, Purpose a 3 versions différentes du FNB. 2 sont négociés en dollars canadiens, le BTCC.B et le BTCC. Le BTCC est couvert pour l'exposition à la devise américaine. Le troisième, le BTCC.U, est négocié en dollars US, permettant aux investisseurs de détenir le Bitcoin en dollars américains. Les frais de gestion sur ces FNB sont d'à peu près 1%. Puis après un mois sur les marchés, il y a 720 millions d'actifs dans ces FNB. Donc, assez populaire, là. Quant à Evolve, ils ont 2 FNB, un négocié en dollars canadiens, l'autre en dollars US. Celui négocié en dollars canadiens, son symbole est EBIT et celui en dollars US est le EBIT.U. Il y a à peu près 50 millions d'actifs dans ces FNB. Les frais de gestion, par contre, sont un peu plus bas, à 0,75. Ils ont été ramenés à 0,75 parce qu'au lancement, ils étaient à 1%. Mais vu que Purpose leur avait enlevé le tapis de sous les pieds, si on veut, ils ont décidé de réduire là, pour attirer des actifs, là, réduire à 0,75. Et juste avant d'enregistrer ce balado, il y a une autre troisième firme, CI First Asset, qui a lancé son FNB sur le Bitcoin également le 5 mars à 40 points de base, donc moins cher que les deux autres.
Je voudrais juste intervenir, François, pour préciser les frais de gestion qui sont mentionnés. Ce ne sont pas les frais totaux qui vont être payés par les investisseurs. Les frais totaux vont être plus élevés que ça. Dans le cas du Purpose, qui affiche un frais de gestion de 1%, les frais totaux, ce qu'on appelle le ratio des frais de gestion, est plafonné à 1,5%. Donc, quel va être le ratio des frais de gestion réel? On va le savoir quand le titre va avoir un an d'historique. Mais pour l'instant, c'est minimalement, c'est certainement au-dessus d'un pour cent. Et donc, 1%, ce n'est pas le total des frais.
Excellent point, Raymond, merci. Maintenant, pour répondre à la question de l'auditeur, quelle est mon opinion? Eh bien, je pense que les FNB sur le Bitcoin sont une grande amélioration pour les investisseurs individuels en termes de facilité d'échange, d'accessibilité, de sécurité. Et je pense que les frais sont raisonnables. coûteux par rapport à d'autres FNB, bien entendu, là, mais pour avoir un accès facile au Bitcoin, je pense que c'est raisonnable. Surtout le dernier là, de CI First Asset à 0,40 points de base. Là.
Ouais.
Cela dit, est-ce que je recommanderais à nos clients d'investir dans FNB? Ma réponse, c'est non. C'est tout simplement trop volatile, trop spéculatif et ça ne fait pas partie de notre philosophie de placement. Même les prospectus là, de Purpose, Evol et peut-être même CI que je n'ai pas revu, là, mettent en garde contre la nature spéculative du Bitcoin et sa volatilité et son risque considérable. Je voudrais rappeler à notre auditoire que les synonymes de spéculatif sont dangereux, incertains, imprévisibles. Donc, quel que soit le synonyme que vous préférez, je pense que vous avez compris. Enfin, selon le site spécialisé sur les FNB, etf.com, il n'y a pas encore d'FNB sur le Bitcoin aux États-Unis parce que la Securities and Exchange Commission, la SEC, a empêché tous les FNB potentiels de crypto-monnaies de s'inscrire en raison de préoccupations sur la manipulation de marché et le risque pour les investisseurs de détail. Oui, James?
En fait, ça nous fait réfléchir. Pourquoi est-ce que notre régulateur lui autorise que ces fonds transgés en bourse peuvent être créés puis peuvent être approuvés quand le régulateur américain tient de tels propos? On est très fiers de nos régulateurs. Dans la crise financière, le Canada, contrairement au reste du G7, on s'en est très bien tiré des pinces du jeu. On était beaucoup mieux réglementé. Et c'est important pour notre industrie, pour le secteur financier. Puis là, on voit ce genre de commentaires, ça apporte à réflexion. Je lisais, puis j'invite nos auditeurs d'aller sur le web pour voir les propos du professeur Nouriel Roubini, qui est un professeur de finance à l'Université New York University, très connu, qui a écrit plusieurs livres. Et lui, il dit que, selon lui, les cryptomanies, c'est des stratagèmes frauduleux de Ponzi. Et effectivement, il comparait, il disait que les pierres à feu là, de la bande dessinée des années 60, eux avaient un meilleur système monétaire que la cryptomanie. Fait que moi, je pense que nos auditeurs devraient faire très, très attention. C'est vraiment très spéculatif. Et vraiment de comprendre ce que c'est.
Oui, M. Roubini, je pense qu'il parle de manipulation, de blanchiment d'argent potentiel avec les crypto-monnaies. Il dit que c'est pas une devise parce que les gens pensent que c'est maintenant une devise, puis il donne plein d'arguments de pourquoi c'est pas une devise, puis pourquoi les gens le comparent à l'or, puis vraiment pourquoi on ne peut pas comparer ça à l'or. Donc, un article intéressant, puis des propos quand même assez intéressants de M. Roubini. Eh bien, c'est tout pour ce 12e épisode de Sujet Capital. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. N'oubliez pas de vous joindre à nous lors du prochain épisode lorsque nous poursuivrons notre discussion, la deuxième partie, la fiscalité de vos placements. James Parkin, Raymond Kerzero, merci d'avoir partagé votre expertise, votre sagesse.
Ça m'a fait grand plaisir, François.
Tout le plaisir est pour moi, François.
Merci beaucoup à notre réalisatrice Lise de la Planche pour sa précieuse collaboration. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. D'ici à notre prochaine rencontre, prenez soin.